France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Nouvelle journée en Meurthe-et-Moselle avec l'exemple du soutien assez rare qu'une institution départementale réalise au profit de son agriculture, plus bio, plus locale, plus proche des consommateurs et plus en phase avec la restauration collective. Vincent Lautel nous détaillera ses actions comme la compensation des retards de paiement des aides européennes. Ici, on fait ça dans le département de Meurthe-et-Moselle. Mais dès à présent, nous allons à Maxéville pour annoncer un projet de tiers-lieu culturel un peu audacieux. Et c'est tant mieux.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Olivier Fresson, bonjour.
Bonjour Philippe.
Mais Olivier, vous êtes, comme on le dit souvent, un des porteurs de projets de la SIC. Lilo, donc la Société Coopérative d'Intérêt Collectif, sur le site des brasseries de Maxéville. Vous pouvez nous expliquer d'abord la configuration de ce site?
Alors la configuration de ce site, c'est en fait, ce sont en fait des anciennes brasseries qui ont été utilisées jusqu'en 1942, puis abandonnées, puis données à une association, une compagnie de théâtre pendant une dizaine d'années. Et puis le site a été abandonné et donc la ville souhaite remettre en place une dimension économique, solidaire, culturelle à ce lieu qui est magnifique.
Alors à l'origine de la SIC, Lilo, il y a l'association L'île aux bombes. Quel drôle de nom!
N'est-ce pas? Oui. En fait, c'est un des porteurs de projet qui est à notre côté, Christophe Blondet, qui a monté cette association et souhaitait faire des petites bombes culturelles dispersées un petit peu partout sur le territoire.
Oui.
Et on a gardé une partie de l'origine du nom pour nommer la SIC.
Bon. Vous avez répondu à un appel à projet émis par la mairie en mars dernier.
C'est tout à fait ça.
Il y avait beaucoup de concurrence?
Alors, en fait, on était deux. Il y avait notre équipe qui avait déjà déposé un dossier il y a quelques années de ça, en fait, sachant le lieu disponible. Et puis une autre personne qui est déjà implantée sur le site, qui a une entreprise. Donc c'était un petit peu l'un contre l'autre, quoi.
Qu'est-ce qui a convaincu la mairie dans votre projet?
Bah, je crois qu'avant tout, c'était sa richesse dans les propositions qui étaient faites, hein, parce qu'on s'appuie sur une dimension culturelle. Et puis on a voulu aussi véhiculer d'autres valeurs telles que l'écologie, le vivre ensemble, la transmission des savoirs, etc.
Emma qui nous a envoyé de votre part un long courrier très détaillé précise que vous allez par tous les moyens vous attacher à l'équité et à la solidarité dans les relations économiques.
Oui, c'est un idéal qu'on aimerait atteindre. Effectivement, je pense que ces projets ils sont aussi véhiculés par des utopies telles que celle-ci. On aimerait que les échanges économiques, déjà, n'aient plus seulement une valeur monétaire, mais aussi, par exemple, une valeur qui soit en termes d'échanges humains, de savoir acquis, etc. Et que, souvent, dans ce genre de relations, l'apprenant apprend autant, finalement, que la personne qui transmet son savoir.
L'ouverture définitive de l'îlot est prévue pour quand?
Oh, il y a plusieurs étapes en fait. Le bâtiment est quand même relativement grand, il fait 1300 mètres carrés, et on doit réhabiliter l'ensemble. Donc on a phasé le projet en trois phases, et la première phase, donc qui comprend la salle de spectacle et une salle de résidence pour les artistes, devrait être terminée, on l'espère, dans le premier semestre 2021.
Vous aviez des artistes en demande, indépendamment des membres de votre SIC?
Alors oui, bien sûr. En fait, il y avait une vraie demande sur le territoire des artistes, mais aussi des compagnies, des diffuseurs, hein, donc les associations qui organisent des spectacles, des concerts, etc.
Oui. Il y aura aussi un studio de création sonore, un lieu de formation au métier de la culture.
Tout à fait. En fait, on sait aussi que le spectacle vivant est par nature déficitaire, donc il nous fallait, sans compter trop sur les subventions qui deviennent de plus en plus aléatoires dans ce domaine, financer l'activité. On est tous formateurs en fait dans l'équipe, moi dans les domaines de la gestion, Emma par exemple dans la communication, un autre porteur est dans le domaine de la technique. Donc on s'est dit que ça serait une bonne idée en fait de rassembler nos différentes compétences et de les mettre au service des métiers de la culture, hein, qui sont très nombreux et où il y a une forte demande sur le Grand Est.
Oui. Alors on a parlé des coopérations et des solidarités prévues dans ce lieu, mais j'en reviens quand même à la fameuse question du coût d'aménagement, des travaux, de réhabilitation, d'investissement. Comment vous vous en sortez?
Alors on a la chance d'avoir un super partenaire qui est tout d'abord la mairie de Maxéville, hein. C'est vrai qu'ils ont été très ambitieux sur ce site en faisant le choix d'installer des projets finalement quelque part risqués Et ils nous ont octroyé une subvention d'investissement de 240 000 euros sur les 850 000 nécessaires. Donc ça nous permet déjà un vrai levier pour aller derrière solliciter d'autres partenaires, subventions publiques, mais aussi mécénats, et puis bien sûr les sociétaires sur lesquels on s'appuie pour créer la SIC.
Ouais. Et puis il y a toujours de la place pour les nouveaux sociétaires.
Tout à fait.
La part est fixée à 50 euros par personne.
C'est ça, par personne physique. Après, on a mis des droits d'entrée un petit peu supérieurs pour des associations ou des entreprises. Et puis, c'est vrai qu'on a des super partenaires à nos côtés d'ores et déjà. Hein. Il y a le fameux Nancy Jazz Pulsation, qui est un festival connu ici, qui nous soutient. Il y a aussi l'autre canal, qui est la scène de musique actuelle, qui est installée à Nancy. Donc, c'est vraiment des partenaires, des institutions culturelles qui comptent et qui nous soutiennent. Donc, on est très contents de ça.
Eh bien, nous, on en est ravis. Lilosic.fr pour l'adresse. Et Olivier, vous nous tenez au courant lors des premières actions, des premières animations et aux créations au sein de Lilo.
Nous n'y manquerons pas.
Merci. Merci, Olivier.
Merci beaucoup.
France Inter, carnet de campagne.
Dans ce département, on brasse encore beaucoup de bière. L'illustration de Maxéville est celle du passé, mais une mémoire est bien présente avec le musée français de la brasserie à Saint-Nicolas-de-Port, au sud de Nancy. Première mention de cette brasserie au 19e, au 16e siècle, pardon, et fin 19e, plusieurs établissements se sont regroupés sous le nom de Grande Brasserie de Saint-Nicolas-de-Port. Avant la fin de l'activité brassicole en 86, plusieurs ouvriers qui ne souhaitaient pas perdre cette mémoire et ce patrimoine sont parvenus, avec le soutien de la commune, à créer donc le musée en 88, et depuis 95, il permet aussi, par des ateliers, d'apprendre le brassage. Donc vous pouvez brasser votre propre bière. Il y a des formations, vous allez trouver les dates sur le site passionbrasserie.com. Et parmi les passionnés qui passent à l'action à grande échelle en créant leur propre marque, deux amis de Toul ont réalisé leur premier brassin en 2013, qui a donné naissance à la brasserie Cheval. De forme associative, la brasserie est aussi un lieu d'échange, d'événements culturels. L'originalité de cette brasserie artisanale est de réaliser un produit aussi à partir de vos suggestions. Donc si vous avez une recette, vous pouvez la soumettre au brasseur de Toul, à la brasserie cheval.fr. Vincent Lautel, bonjour.
Bonjour.
Vincent, vous êtes responsable du service agriculture au département de Meurthe-et-Moselle, un département qui s'est engagé dans le soutien de l'agriculture biologique depuis plusieurs années.
Oui, depuis fort longtemps, en fait, à travers une partie d'une charte départementale qui est renouvelée chaque année avec un certain nombre d'organisations professionnelles agricoles, et notamment les porteurs du développement du bio.
Ouais. Et ça veut dire les représentants professionnels du monde agricole. On pense tout de suite à la grande fédération la FDSEA, mais on pense aussi à d'autres confédérations, la Confédération paysanne par exemple. Est-ce que vous travaillez avec les deux ?
On travaille davantage avec la représentation départementale de la FNSEA pour des raisons Oui, c'est une domination assez nette au niveau électoral. Mais on a des relations tout à fait cordiales avec les trois syndicats agricoles qui sont représentés en Meurthe-et-Moselle.
Tant mieux, c'est une preuve d'intelligence. La deuxième preuve d'engagement, c'est que le département est le seul à s'être mobilisé pour compenser les retards de paiement des aides européennes à la conversion bio, et ça depuis sur les campagnes 2015, 2016, 2017. Il y a trois campagnes à couvrir, puisqu'il y a eu d'énormes retards.
Oui, on a pris en compte des retards qui touchaient des exploitations qui se trouvaient dans une situation de fragilité économique. La conversion au bio se traduit notamment par une baisse de la productivité, et d'autre part, pendant le temps de conversion, l'impossibilité de vendre ces fameuses productions au tarif du bio, ce qui fait qu'il y a une double fragilité supplémentaire.
Ouais, mais ça fragilise en même temps le budget du département.
Alors, on s'est en fait substitué à l'agence en charge des paiements de manière transitoire, c'est-à-dire qu'on a apporter aux exploitations en cours de conversion l'avance, le premier versement auquel elles pouvaient prétendre et qui n'arrivait pas. Et par la suite, l'agence nous rembourse au fil du temps les montants qu'on a versés.
Ouais. Vous avez mobilisé aussi des crédit, 400 000 euros de crédit exceptionnel sur le plan d'aide à la sécheresse, puisqu'on le sait, beaucoup de départements, une majorité de départements ont été frappés par les grandes sécheresses. Ça veut dire diminution du fourrage pour les éleveurs, achat, surachat. Ça veut dire aussi endettement supplémentaire. Vous vous substituez à l'État en faisant ça ?
On se substitue pas à l'État, on a coopéré au contraire avec l'État pour ce qui concerne notamment les aides sécheresse, puisqu'on s'est adossé au dispositif national des calamités agricoles. Et donc on a en fait concouru aux mesures de soutien envers les exploitations concernées. C'était d'autant plus utile qu'on a un modèle agricole majoritaire qui est celui de la polyculture élevage et que l'équilibre économique des fermes tient à la capacité des agriculteurs de nourrir leur bétail avec ce qu'ils produisent sur leur terre. Donc à partir du moment où ils étaient contraints d'acheter tout ce qu'ils donnaient à leurs bêtes ou une forte proportion pendant la période d'hiver, c'était une intervention qui semblait logique et qu'on a fait en coopération précisément avec l'État.
Et chez vous, Vincent, on s'attaque aussi à la restauration collective en production bio ?
Oui, en bio, en local et en bio-local. De longue date ici, notamment à travers la facilitation de l'accès des cuisines de nos collèges à des produits locaux et bio-locaux, et puis à travers un certain nombre de soutiens apportés à la structuration des filières et aux projets émergents pour justement développer cette consommation.
Dernière question sur les remplacements, les départs à la retraite, trouver de nouveaux candidats à l'installation agricole ou à la reprise d'une entreprise agricole, est-ce que vous avez là un dispositif approprié, des moyens d'intervenir ?
Alors c'est relativement compliqué parce que l'évolution législative avec la loi NOTRe nous a contraints à cesser de soutenir le dispositif départemental d'installation et donc de transmission. Mais on est en partenariat étroit avec les forces vives, entre guillemets, qui s'occupent de cette problématique-là. C'est un enjeu crucial. Et la profession en est consciente depuis longtemps et on est notamment en partenariat avec la Chambre départementale d'agriculture qui s'est saisie de cette problématique-là depuis longtemps.
Mais avec la loi NOTRe, ça veut dire que le département se trouve dépossédé de certaines missions qui vont vers la région.
Oui, oui, la région est de plein droit compétente en matière d'agriculture.
Sauf qu'elle a pris une sacrée échelle chez vous avec le Grand Est.
Elle est très grande, elle fait son possible, mais c'est vrai aussi que sur un territoire d'une telle ampleur, le risque c'est de perdre la capacité à faire un peu de dentelle pour intervenir précisément sur les besoins des territoires. Vous faites 50 kilomètres, la réalité est tout autre.
Oui. Merci pour votre témoignage et les actions que vous portez dans le département de Meurthe-et-Moselle, vous Vincent Lotel.
Merci à vous.
Merci Vincent, bonne journée.
Bonne journée à vous.
Nous poursuivons notre collecte de solutions et de bonnes nouvelles. Rappel à nouveau, en mois de décembre, nous serons dans la Sarthe avant d'aborder le Val-de-Marne, puis les Landes et la Gironde. Et puis je peux vous donner déjà un petit indice pour la suite, l'Indre-et-Loire, Loire-et-Cher et Yvelines. Mais pour l'instant, on s'en tient à la Sarthe, le Val-de-Marne, les Landes et la Gironde. Merci pour vos messages.